le bienheureux Louis-Édouard Sestac, 1801-1868. L'abbé Philippe Beitia nous propose un résumé, un parcours du père Louis-Édouard Sestac, fondateur de la Congrégation des Servantes de Marie et des Bernardines, un saint prêtre originaire du diocèse de Bayonne. Le père Louis-Édouard Sestac a été béatifié à la cathédrale de Bayonne le 31 mai 2015. Il est fêté dans le calendrier liturgique le 27 mars. Le bienheureux Louis-Édouard Sestac, l'abbé Philippe Beitia.
Le bienheureux Louis-Édouard Sestac. Il naît en 1801 et il meurt en 1868. Des biographies du père Sestac ont été écrites qui nous révèlent sa physionomie spirituelle et son œuvre. Citons celle du père Gabex Yalé et de sœur Fanny Marty Corena, un vicaire descend dans la rue, tout comme celle d'Yves Chiron, Louis-Édouard Sestac, biographie. Il faut mentionner aussi la présentation faite par les servantes de Marie de leur fondateur. Nous nous en inspirons. Louis-Édouard Sestac naît à Bayonne le 6 janvier 1801, dans une famille chrétienne, chaleureuse et unie, d'un père bigourdan, chirurgien de la ville de Bayonne et des prisons, et d'une mère basquaise à la fois profonde, originaire d'une famille de chocolatiers. Louis-Édouard comprendra donc le basque et parlera la langue gasconne. De son éducation familiale, il reste marqué par l'attention aux pauvres et au partage. À 18 mois, frappé de ce que l'on appelait alors névralgie, il est guéri miraculeusement par Marie, nous dit-il, suite à un pèlerinage que sa mère fait à Saint-Bernard, à Bayonne, où était honorée une Vierge à l'enfant, statue qui est aujourd'hui conservée à l'église Saint-Étienne de Bayonne. Il témoignera chaque année sa reconnaissance à la Mère de Dieu et, en souvenir de cette grâce, appellera plus tard Bernardine les femmes repenties qui voudront mener une vie de prière et de travail. Son enfance et sa jeunesse se passent sur fond de présence des troupes napoléoniennes dans la ville de Bayonne et de son blocus par les troupes anglaises. Durant l'année 1815-1816, Louis-Édouard est élève de l'école Saint-Léon de Bayonne, qui deviendra Saint-Louis de Gonzague et aujourd'hui le Guichot. Fréquenté également par Michel Garicoïdz, qui, pour financer ses études, était aussi valet de chambre du chanoine Honnert à l'évêché de Bayonne. À 15 ans, Louis-Édouard Sestac entre au petit séminaire d'Aire-sur-l'Adour. À cette époque, le diocèse de Bayonne englobe aussi l'actuel diocèse d'Aire et de Dax. Il y passera 3 ans, de 1816 à 1819. Il se fixe un règlement de vie. Puis, c'est le séminaire Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux qu'il accueille en 1820. Il y découvre des auteurs spirituels. Il s'y fait des relations qui lui serviront plus tard dans son ministère. C'est le parcours d'un élève doué, musicien, passionné par les mathématiques, la philosophie, la physique, qu'il approfondit. Toutes choses qui lui permettent, dit-il, d'élever son âme vers Dieu et d'admirer dans ses ouvrages sa main toute puissante et sa sagesse divine. En 1822, de retour à Bayonne pour raison de santé, l'évêque l'envoie enseigner au petit séminaire de La Ressort. Il y retrouve Michel Garicoïdz. La rigueur de son confesseur janséniste, qui lui refusera l'absolution de l'été 1824 à la veille de son ordination diaconale en juin 1825, et donc la communion, lui fera plus tard se détacher de ce rigorisme et recommander la communion fréquente. Il est ordonné prêtre à la cathédrale de Bayonne le 17 décembre 1825. Il consacre ses mains, son cœur, toute sa personne à la Vierge Marie. Dans ses premières années de jeune prêtre, il prie Dieu ainsi. « Faites-moi la grâce, je vous en conjure, de travailler en vous, pour vous, par vous, soit que j'étudie, soit que je professe, soit dans l'exercice du ministère sacerdotal, que je prêche, que j'administre les sacrements, que je célèbre les saints mystères, faites que toujours en tout temps, dans tous les lieux, je sois uni à votre cœur et étroitement lié à votre sainte volonté, nonobstant les résistances et les oppositions et les empressements de la nature. À 30 ans, nommé le 27 août 1831 vicaire à la cathédrale de Bayonne, chargé des pauvres de la banlieue, le professeur estimé devient un pasteur aux initiatives inattendues. Son confessionnal est constamment rempli de pauvres. Parmi les enfants qu'il confesse, il y a le futur cardinal Lavigerie qui se prépare à sa première communion. Il tracera aussi un plan pour l'instruction religieuse. Les pauvres, les visites aux malades, le confessionnal, la préparation des sermons occupent la plus grande partie de son temps. Chargé des pauvres, sa correspondance révèle les charités cachées qu'il pratique avec sa sœur. Il pourra dire à la fin de sa vie « Ma vie s'est passée au milieu des pauvres et des petits. Je les aime et je sens tout ce qu'on leur doit d'intérêt et d'amour. » Le père Sestac aura le souci de la justice et du respect de chaque personne. Homme sensible et d'une grande bonté, sa pratique de la charité le conduisait à tout donner et surtout le meilleur. Homme sensible et d'une grande bonté, il donnait tout ce qu'il avait et se faisait tout à tous. Il est touché particulièrement par la situation des fillettes à la rue. C'était des jeunes filles de 11, 13 ou 14 ans que je voyais vêtues de haillons et un panier sous le bras, aller çà et là chercher leur vie en ramassant des copeaux dans les chantiers des charpentiers, des eaux dans les campagnes, exposées à tous les dangers et à tous les malheurs, comme Bernadette à Lourdes. Un jour, dans mes courses, je découvris au fond d'un faubourg deux petites orphelines abandonnées. Elles étaient pâles, chétives, exténuées, sans vêtements et faisaient mal à voir. Dieu me suggéra le dessein de me charger de ces enfants. L'abbé Sestac répond à cet appel de Dieu en les accueillant très pauvrement dans un local prêté. Il ne s'agira pas pour le père Sestac de faire uniquement un acte de charité en accueillant ces fillettes abandonnées. Il s'agira aussi pour lui de leur donner instruction religieuse et profane pour préparer leur réinsertion dans la société. Il veillera à ce qu'elles soient formées aux travaux domestiques, ménage, cuisine, repassage, etc. Un deuxième choc le provoque à accueillir des jeunes prostituées qui aspirent à quitter la rue. On ne pouvait pas les mettre avec les fillettes abandonnées. L'abbé Sestac médita sur ce qu'il fallait faire de celles qui s'étaient repenties et qui voulaient changer de vie. Les pénitentes ne seraient pas cloîtrées. Elles devraient vivre avec celles qui les dirigeraient dans une maison dont les portes seraient ouvertes aux visiteurs. Elles travailleraient à la terre, elles cultiveraient les champs. En cette circonstance, il reçoit une parole intérieure de la Vierge Marie. « Moi, je les garderai. » Après prière et discernement, sans moyens, dans le dénuement le plus souvent critiqué, il répond à l'inspiration reçue de leur donner une famille. Seul, il ne peut rien. Il compte donc sur deux appuis. La Vierge Marie, son inspiratrice, son soutien, et les jeunes femmes volontaires, dont sa propre sœur Élise. L'abbé Sestac n'a pas un projet préétabli. Il prie et cherche à discerner le plan de Dieu. L'expérience spirituelle au sanctuaire Notre-Dame de Buglose, dans les Landes, le 19 juillet 1838, va être décisive. Voilà ce qu'il nous dit. « Pour accueillir les jeunes filles en difficulté, je n'avais pas d'argent. Je marchais donc en aveugle. Nous approchions du 19 juillet, fête de Saint-Vincent de Paul. La veille, vous me fîtes sentir que je devais, sous la protection spéciale de ce grand saint, aller visiter votre béni et chéri sanctuaire de Buglose. Obéissant à cette maternelle inspiration, je me mis en route. Enfin arrivé, je vous présentais l'hommage de tout mon être. Mais, avant de formuler ma demande, je crus devoir aussi me recommander au saint honoré dans la pieuse chapelle. L'un, celui de droite, était Saint-Vincent de Paul lui-même. J'étais assuré de son concours. Je fus à la chapelle de gauche. Oh, quelle fut ma surprise, ma joie, mon saisissement, lorsque je vis l'autel dédié à Sainte Marie-Madeleine la pénitente. Qu'avais-je besoin de lui demander ? N'était-ce pas elle, ma divine maîtresse, qui avait peut-être plaidé la cause de ces pauvres infortunés, et qui peut-être vous avait demandé de m'appeler auprès de votre béni sanctuaire ? Ou plutôt, votre cœur maternel n'était-il pas uni au cœur de cette grande sainte dans ce trait de si grande miséricorde ? Dès ce moment, je vis ma cause gagnée auprès de vous, et je me présentai à vos pieds avec une grande et entière confiance. Je vous renouvelai tous mes sentiments d'offrande, de dévouement, de sacrifice, et enfin, j'allais vous demander les 50 000 francs lorsque vous me fermâtes la bouche et vous me fîtes entendre cette parole si digne de vous et de votre grandeur, ma divine mère, ne me demande que mon esprit. Je m'arrêtai de suite, humilié, confondu de tant de bonté. Je compris que le reste, c'est-à-dire l'œuvre, devait être et serait votre ouvrage. Que seul vous vouliez la fonder et pourvoir à tout ce qui lui serait nécessaire. Oh, quelle leçon ! Mais quelle miséricorde à l'égard d'un si pauvre pécheur ! Oh oui, la plus tendre des mères, donnez-moi votre esprit. Je vous le demande uniquement car je sais, et vous me l'avez bien prouvé, que tout le reste nous sera donné par surcroît. Donnez votre esprit à votre œuvre en général et à toutes les âmes que vous daignez y appeler, et aux prêtres qui seront appelés par vous à la direction spirituelle de cette œuvre, et aux supérieurs, aux mères qui devront le communiquer à toutes les parties du corps enfanté par vos entrailles maternelles. Car je le sais, si nous avons votre esprit, nous posséderons tout. Ce sera cet esprit de sagesse et de charité qui dirigera votre œuvre. Ou plutôt, ce sera vous-même qui la dirigerez par vos pauvres serviteurs et vos pauvres servantes. Mille et mille fois plus heureux et plus riche que si vous m'aviez promis tout l'or de la terre, après vous avoir remercié et béni de toutes les fusions de mon cœur, je repris la route de Bayonne, où je repris mes travaux ordinaires, mais dans une nouvelle vie de bonheur et d'espérance. Parti donc pour demander l'argent nécessaire pour l'accueil de ces jeunes, il entend cette parole de la Vierge Marie « Ne me demande que mon esprit ». Désormais, il est convaincu que tout sera l'œuvre de Marie. Acheté à crédit, le domaine Châteauneuf, Anglette, devient Notre-Dame du Refuge. À l'encontre des usages du temps, ces femmes y vivent un travail en plein air, sans mur ni clôture, et retrouvent surtout une vie de famille. Les éducatrices bénévoles font choix des valeurs évangéliques que Louis-Édouard vit et propose. Le 6 janvier 1842, 14 d'entre elles, dont sa sœur Élise, font profession religieuse entre les mains de Mgr Lacroix, évêque de Bayonne. La congrégation des servantes de Marie est fondée. En 1851, la famille religieuse s'enrichit d'une communauté contemplative, le monastère de Saint-Bernard. Il est né du désir de quelques jeunes repentis de vivre totalement consacré à Dieu dans le silence, la prière et le travail. Dès l'arrivée des jeunes à Anglette, le père Sestac se trouve confronté à la situation misérable de l'agriculture du pays. Pour nourrir cette grande famille, il cherchera à l'améliorer en s'initiant de nouvelles méthodes et fait de Notre-Dame du Refuge un lieu d'expérimentation. Fabrication d'engrais biologiques pour fertiliser les champs, ensemencement de pain pour arrêter la progression des dunes, sélection dans l'élevage. Par le travail de la terre, les jeunes accueillis vont retrouver le goût de vivre. Soucieux de partager ses découvertes, le père Sestac travaillera avec les agriculteurs locaux et participera activement aux différentes instances agricoles. Après avoir accueilli des jeunes en difficulté, contribue à l'éducation des filles des campagnes et sa seconde réponse. Un travail en amont pour aller à la source du problème. Aussi, à partir de 1850, le père Sestac œuvre au développement des écoles rurales pour les filles. Il veille à ce que l'éducation soit fondée sur le respect de la personne et de sa liberté, la fermeté, la douceur, le travail, et surtout que les enfants et les jeunes apprennent à connaître, aimer, prier Marie pour devenir d'autres Jésus. Je le comprends. Je devrais être d'abord une âme d'oraison, une âme de prière, écrit-il. La prière du Père Sestac se nourrit d'une longue fréquentation quotidienne de l'Écriture, de la parole de Dieu. Cela imprègne sa pensée et ses écrits. Pour lui, la prière est notre consolation et notre trésor. Il conseille fréquemment de prier avant toute action ou toute décision. Surtout, il faut prier avec confiance. Notre espérance, c'est la prière faite avec confiance. Cette confiance s'adresse le plus souvent à Marie. Priez, priez cette mère admirable. Elle est si bonne. Il note aussi, notre vie est un combat. Ne déposez jamais les armes. Nos armes sont la prière, la douce et sainte union à notre divine mère. Attentif aux signes de Dieu manifestés dans le quotidien, il invite à cultiver la reconnaissance. Ne la remerciez jamais sans faire remonter l'action de grâce jusqu'au cœur qui est la source de ses libéralités. Pour lui, Marie est notre mère, qu'il faut toujours mieux connaître et aimer. Il invite chacun à la connaître comme la meilleure des mères. L'aimer et lui parler comme un enfant aime et parle à sa mère. Chercher auprès d'elle secours et consolation. Lui confier toutes ses peines. Il a une confiance sans borne en cette mère qu'il qualifie de mille manières. J'ai fait une si vive expérience de ses soins vigilants et des maternelles bontés de la très sainte Vierge. Tout au long de sa vie, le Père Sestac va nouer de nombreuses relations, notamment avec des prêtres qui sollicitent la présence de communautés des servantes de Marie dans divers diocèses, en France et en Espagne. Il s'entoure de conseillers avisés qu'il consulte avant toute décision. Il ose solliciter les personnes influentes pour améliorer l'accueil des jeunes filles. Toutefois, il impose une règle. Ne jamais rien demander, mais ne jamais rien refuser. Le rayonnement du Père Sestac le faisait considérer comme un saint. Les défis auxquels il a essayé de répondre, notre monde les connaît encore, ici et ailleurs. Respect de la vie et de tout être humain, respect des droits de l'enfant et de la femme, défense de la nature. Père Sestac, décédé le 27 mars 1868, sera béatifié à la cathédrale de Bayonne le dimanche 31 mai 2015 en la solennité de la Sainte Trinité. L'oraison de sa fête nous fait contempler Dieu donnant à Louis-Édouard Sestac d'imiter avec l'aide de la Vierge Marie Jésus annonçant la bonne nouvelle aux pauvres. L'Église nous fait demander le même zèle. Dieu qui a donné au bienheureux prêtre Louis-Édouard Sestac d'imiter avec l'aide de la Vierge Marie ton fils annonçant la bonne nouvelle aux pauvres, accorde-nous le même zèle pour la foi et le même amour de nos frères. Nous pourrons ainsi aimer ce qu'il a aimé et pratiquer ce qu'il a enseigné.
Le bienheureux Louis-Édouard Sestac, 1801-1868, fondateur de la Congrégation des Servantes de Marie et des Bernardines, vous venez de suivre une émission proposée par l'abbé Philippe Beitia.